1-202-619-3140. Je vais revenir sur René Lec. Vous qui vivez ici aux États-Unis et qui connaissez un peu la communauté noire, est-ce qu'elle est satisfaite du travail d'Obama?
Écoutez, je pense qu'on peut répondre à deux niveaux. Le premier niveau, c'est vrai que si on veut parler de l'enthousiasme, la ferveur qu'il y avait pour Obama il y a 8 ans, je pense que le réalisme, la réalité des 7 dernières années, hein, puisqu'il lui reste encore à peu près un an, des 7 dernières années, ont fait que bon, cet enthousiasme s'est un peu émoussé, c'est un peu normal. En général, souvent, bon, les espoirs vont toujours au-delà de ce que la réalité peut offrir. Mais si l'on regarde même les sondages, hein, qui aujourd'hui qu'on retrouve même pour Hillary Clinton, qui bénéficie de ce qu'on appelle la coalition Obama, les sondages sont toujours très très favorables, hein, à Barack Obama dans la communauté noire américaine. Donc je pense que dans l'ensemble, même si on n'a pas le même niveau d'enthousiasme du fait des réalités, je pense qu'il reste très populaire et très apprécié dans la communauté africaine-américaine. D'autant plus que les gens ont conscience que quand Barack Obama est arrivé au pouvoir, les États-Unis traversaient l'une des crises les plus importantes depuis 1929 au plan économique, une crise financière qui a eu des répercussions internationales que l'on connaît. Il a fallu redresser la barre. Il y avait 2 guerres extrêmement violente dans laquelle l'Amérique était impliquée au premier rang. Mmh. Donc il est arrivé dans un contexte très particulier et il a dû se focaliser sur les grandes questions qui au fond dont les enjeux étaient nationaux.
D'accord.
Et ça allait bien au-delà de la problématique de la communauté noire américaine.
Voilà, on a rétabli la connexion avec le professeur Jean-Emmanuel Pandy. Une question à laquelle vous répondiez déjà et que je vais reposer autrement. Beaucoup d'Africains ont vu un Barack Obama, un fils du continent, qui viendrait mettre fin à leur malheur. Et vous, vous dites que les Africains se sont trompés. Pourquoi?
Oui, moi je crois qu'il faut vraiment que nous sortions de cette approche d'assistanat. Parce qu'en fait, j'ai répété tout à l'heure qu'il a été élu par les Américains sur un agenda et une plateforme électorale américaine. Et ce n'est pas, nous l'avons envoyé à la Maison Blanche. Maintenant, il est clair qu'il peut avoir une sensibilité plus grande pour l'Afrique, c'est aussi possible. Mais je pense pour ma part qu'il a déjà écrit l'histoire en étant le premier à entrer à la Maison Blanche, au bureau ovale. Ça, c'est très important. Et il a refait cela en se faisant réélire. Ça montre donc qu'il a définitivement inscrit son nom et le nom de l'Amérique noire au niveau de l'histoire des États-Unis. Ça ne s'était pas fait depuis le 4 juillet 1776. Et je pense que c'est très important.
Mais ceux qui ne partagent pas votre avis, vous diraient que c'est un fils d'Africain, son père est africain et donc il doit d'une certaine manière ou d'une autre à l'Afrique.
Non, moi je ne partage pas ce point de vue parce que je crois qu'il faut qu'on sorte de cette manière de réfléchir. En vérité, nous aurions dû, en tant qu'Africains, préparer les prémices et le fond d'ailleurs d'un plan stratégique entre les États-Unis et l'Amérique pendant ces 8 ans de présidence. Qu'est-ce que nous avons fait dans ce domaine? Où est cette feuille de route? Est-ce que c'est encore lui qui doit quitter la Maison Blanche pour venir rédiger cette feuille de route à Addis Abeba pour nous? Je pense que non. Il faut que nous soyons plus matures et que nous quittions de cet esprit selon lequel d'autres doivent faire les choses pour nous. Non. Que nous aurions plutôt dû profiter de cela. On a vu quand, par exemple, Kurt Waldheim était secrétaire général des Nations Unies, ce qu'il a fait au niveau de l'Autriche. Il a transféré un grand centre des Nations Unies à Vienne, justement parce qu'il était de là-bas.
Oui,
on ne lui a pas proposé à M. Barack Obama un plan stratégique pouvant en fait renforcer de manière durable la relation États-Unis Afrique.
On va rester en contact. On va du côté de Kinshasa pour retrouver un auditeur. Non, il est reparti. Je vais relancer René Lec sur ce que le professeur Emmanuel Pandy disait tout à l'heure. Barack Obama, lorsqu'il a fait ce fameux discours du Ghana, il a parlé aux leaders africains en disant disant que l'Afrique n'a pas besoin des hommes forts, mais de fortes institutions. Mais on a constaté ces dernières années que de plus en plus de chefs d'État africains font tout pour s'éterniser au pouvoir en changeant notamment les constitutions. Est-ce que ce n'est pas une sourde oreille au discours d'Obama? René?
Des évolutions notoires. Et les États-Unis ont joué un rôle très, très, très concret. Et je prends la crise en Côte d'Ivoire. La crise en Côte d'Ivoire, les États-Unis se sont impliqués à un niveau sans précédent dans l'histoire de l'Afrique francophone. En général, l'Amérique, comme vous savez, a toujours été un peu timide, considérant que c'est un peu le précaré français. Donc, sur la Côte d'Ivoire, les États-Unis se sont impliqués énormément, ce qui a permis finalement au président démocratiquement élu de mettre en place son administration et d'être réélu il y a quelques semaines pour un deuxième mandat. Ensuite, il y a eu le cas du Sénégal où le président Wade, comme vous savez, a cherché à faire un passage en force. Les États-Unis se sont impliqués de manière tout à fait nouvelle. Je me souviens, quelques semaines avant ou quelques mois avant les élections, l'ambassadeur des États-Unis au Sénégal avait convoqué une conférence de presse pour mettre en garde le président. C'était du jamais vu dans un pays d'Afrique, en particulier d'Afrique francophone. Ensuite, par rapport au Burkina, la position américaine était extrêmement claire et ferme, ce qui a permis aussi à d'autres pays occidentaux de rester sur une ligne de principe très très claire. Bon, aujourd'hui, vous voyez qu'à partir du 1er janvier 2016, le Burundi ne sera plus qualifié ne sera plus éligible à l'AGOA. C'est une décision qui a été prise par le président Obama il y a quelques semaines à la suite des dernières élections et de tous les événements et de toutes les violations de droits de l'homme qu'il y a dans le pays. Donc je pense que franchement, de ce point de vue-là, l'Amérique et en particulier l'administration Obama a tout à fait joué le jeu.
D'accord, René. On va prendre une petite pause. Vous écoutez l'Amérique et vous. On se retrouve dans une seconde.
L'Amérique et vous, en direct de Washington.
Voilà, l'Amérique et vous, nous parlons de la dernière année de Barack Obama au pouvoir. Nous avons un auditeur qui nous appelle, j'imagine, de la Guinée, Ali Moudialo. Pour lui, il dit que certains se sont désillusionnés. Lui pense personnellement que le peuple américain, il félicite le peuple américain. Ali, bonjour.
Oui, allez-vous.
Alors, quelle est votre réaction? Qu'est-ce que vous pensez de la dernière année d'Obama au pouvoir et des attentes qui étaient celles des Africains?
Voilà, j'avoue que certains Africains ont été désillusionnés parce que pour eux, quand un président afro-américain arrive au pouvoir, ils vont croire que c'est l'Eldorado de l'Afrique, les visas vont s'obtenir facilement, et puis voilà. Mais moi, personnellement, je sais que le peuple américain se fait plus venir, que je félicite et je remercie beaucoup pour l'égalité et la fraternité, etc.
Voilà.
Bon, maintenant, je veux poser une question aux invités, savoir s'il y avait une possibilité que notre président républicain démocratique soit élu à la prochaine présidentielle.
Alors, la question, Emmanuel Pondy, vous répondez?
Je n'ai pas très bien compris la question, en fait.
Alimou, est-ce que vous pourriez reprendre votre question, s'il vous plaît?
La question?
Oui.
Reprendre la question?
Oui.
Voilà, je voudrais savoir s'il y a une possibilité que notre président, encore toujours ici, Ricardo Moukats, soit élu à la prochaine présidentielle américaine.
Ah voilà, est-ce qu'il y a possibilité qu'un autre président démocrate soit élu à la présidentielle américaine?
Enfin, moi, je pense, à partir d'ici, à partir de l'analyse d'ici, je crois que ça dépendra vraiment du niveau des candidats républicains. Pour l'instant, les républicains semblent être dans de très sérieux problèmes en termes de conviction. C'est-à-dire que leur programme, leur rhétorique ne me semble pas particulièrement séduisante. Et en face, donc le Parti démocrate, je crois qu'ils peuvent avoir encore quelques chances, oui.
Alors, on va repartir au téléphone avec un autre auditeur. C'est Agapawa Assa, désolé d'écorcher ton nom, tu nous appelles, quelle est ta réaction?
Oui, merci, c'est Agapawa Assa depuis Kanyabayonga dans le Nord Kivu. Mm-hmm. C'est juste par rapport à la dernière année d'Obama à la tête des États-Unis, mm-hmm. je peux dire que Obama a fait quelques efforts parce que ses déclarations, tout en appelant les dirigeants africains à respecter la constitution, les lois du pays, notamment à préserver la démocratie en Afrique, ce sont des déclarations qui m'ont beaucoup touché. Ce voyage également en Afrique qu'il a fait, qu'il a effectué, il a toujours appelé les dirigeants africains à promouvoir la paix tout en prônant la démocratie. Je peux dire maintenant, Obama n'a fait rien de matériel qui pourra peut-être justifier son élection à la tête des États-Unis. Vous savez, depuis qu'il est là, ce sont toujours des discours homosexuels qu'il a fait à l'endroit en Afrique. Et pourtant, pour les Africains, l'homosexualité, c'est comme cracher sur la mémoire des Africains, c'est comme cracher sur la culture africaine. Moi, je comprends que vraiment Obama a fait des bonnes déclarations, mais il n'a pas vraiment préservé la culture africaine.
Voilà, René Lec, au niveau des États-Unis, merci Agapaya pour ta réaction. Au niveau des États-Unis, le mérite qu'on reconnaît quand même à Barack Obama, c'est sur le plan de l'assurance maladie qu'il a réussi à faire voter.
Oui, tout à fait. C'était un événement historique. Ça faisait 100 ans, hein, donc plus d'un siècle que le projet était en cours. Plusieurs chefs d'État ont essayé. Personne n'y est arrivé. Eh bien, Barack Obama est arrivé à régler cette question, qui est une question essentielle de droits humains pour certains, tout simplement de santé publique pour d'autres. En tout cas, je crois que ce qu'on appelle Obamacare ici aux États-Unis est définitivement l'un des legs historiques les plus importants que Barack Obama, de la présence de Barack Obama.
Il reste que, si je m'en tiens aux réactions que nous avons reçues sur Facebook, il reste que beaucoup de nos auditeurs pensent qu'il n'a rien fait pour que la situation des Noirs ici soit améliorée. On en voit qui sont tués chaque fois par la police et beaucoup pensent qu'il ne fait rien.
Oui, la seule élection de Barack Obama ne peut pas changer la problématique raciale aux États-Unis, vous imaginez bien. Mais je pense que il pose les problèmes à un niveau tout à fait inédit. On se souvient de son fameux discours de Philadelphie pendant la campagne électorale de 2008. Et c'est la première fois qu'un homme public, en plus de ça, en passe de devenir le président de la République, aborder aussi ouvertement, aussi clairement la problématique des races aux États-Unis, et il n'a cessé de le faire depuis. Donc je crois qu'il y a un certain nombre d'initiatives qui ont été prises. Je pense que cela va dans le bon sens. Maintenant, le problème de racial aux États-Unis est un problème extrêmement profond, comme vous pouvez l'imaginer. Même les conditions de production économique pendant pratiquement 400 ans ont été déterminées par de telles relations. Vous imaginez bien que ce n'est pas l'élection d'un Africain-Américain pendant 7 ou 8 ans à la tête des États-Unis qui vont changer dramatiquement ou en tout cas radicalement la situation. Mais je pense que globalement, le pays est sur la bonne voie.
Professeur Pondy, vous avez été pendant des années directeur de l'Institut des Relations Internationales du Cameroun. Oui. Si vous étiez devant vos étudiants aujourd'hui et que vous étudiez le cas Obama, que leur oui. diriez-vous?
Je leur dirais que c'est le triomphe de la volonté et de la persévérance. Parce qu'en fait, au moment où M. Obama se présente, il a pratiquement tout contre lui. Il n'y a jamais eu de noir à ce poste, il n'y a jamais eu de personnes qui ne viennent pas des familles patriciennes, c'est-à-dire des familles qui ont accumulé depuis des générations de l'argent. Mmh. Il vient d'un État qui est pratiquement sur le plan politique ennemi, c'est-à-dire la Hawaï. Ce n'est pas l'État le plus fort. Mmh. Il a tous les atouts qui sont négatifs, on peut dire. Tout. Et il réussit à transformer tout ça en opportunité. Moi, c'est ce que je retiens. C'est-à-dire le triomphe de la volonté, de la détermination et surtout du sérieux. Quand il prend son équipe de campagne, il prend les meilleurs à leur poste en termes d'efficacité et d'efficience. Et c'est ça qui explique pourquoi il va gagner. La leçon pour l'Afrique, c'est de leur dire, et de dire à nous tous Africains, qu'il faut arrêter de prendre des gens sur la base des copinages du village, etc. Il faut qu'on prenne les gens qui sont à mesure de travailler pour l'ensemble de la nation. En servant l'intérêt général, on va servir l'intérêt particulier à l'intérieur. Mais tout le monde sera satisfait parce que tout le monde va avancer. Oh. Je crois que pour ma part, c'est la grande leçon. La leçon de sérieux, d'efficacité et de croyance en soi. Beaucoup trop d'Africains ne pensent pas que l'Afrique mérite le meilleur. Et je crois qu'il a montré que oui, en ayant le sang africain, on peut réussir partout dans le monde.
En tout cas, ce que vous dites a été repris par un de nos auditeurs, Mamadou Mota, qui nous parlait de Maroua. Il dit « Il est vrai que beaucoup d'espoir reposait sur Barack, mais les Africains doivent savoir qu'il est d'abord américain. La présidence américaine n'est pas gérée comme nos chefferies, où le président favorise sa famille, son clan et autres proches. » On va aller du côté de Yamoussoukro pour retrouver Ouédraogo Youssouf. Bonsoir Youssouf.
Oui, bonsoir à la grande chaîne, bonsoir aux auditeurs, à la rédaction.
Alors, qu'est-ce que vous dites de ce sujet dont nous débattons ce soir?
Je pense que c'est un sujet assez intéressant. Et moi, je dis qu'en dépit du fort sentiment de déception qu'on peut éprouver à l'égard de lui, le président Barack Obama reste une valeur sûre pour la conscience humaine. Et même si les lignes de gouvernance ou du changement n'ont pas véritablement bougé aux États-Unis ou ailleurs, le président Obama a ce mérite de montrer à la face du monde, surtout aux Africains, qu'on peut partir de rien avec des idées consistantes pour incarner l'honneur sur la base de la bonne foi.
Tout à fait.
Mais, par contre, de l'assassinat de Ben Laden à l'accord sur le nucléaire iranien, nous pensons que l'essentiel a été préservé, d'autant plus que les Républicains ne l'ont pas non plus facilité la tâche. Et pour nous qui sommes Africains, si peut-être qu'on est dessus, des attentes non atteintes, notamment le traitement dérisoire de la minorité noire américaine victime de toutes sortes de viols, en passant par l'impunité accordée à Israël vis-à-vis de la Palestine, ou encore l'assassinat du président Kadhafi par l'OTAN, etc. L'Afrique n'a pas bénéficié non plus des largesses d'une peau noire à la Maison Blanche. Je pense qu'il faut savoir rêver dans la vie. Et le président Obama est avant tout un président américain au service de la nation américaine.
Merci beaucoup Youssouf. On court après le temps, donc on va repartir. René Lec, l'un des programmes aussi qui fait la fierté d'Obama, c'est cette initiative pour jeunes leaders africains, l'OYALI, où les jeunes sont invités à venir ici aux États-Unis et participent à des programmes dans des universités. Est-ce que ce genre d'idée ne devrait pas faire tâche d'huile en Afrique?
Si, je crois que ce serait intéressant de prolonger ça. Tout à l'heure, j'ai bien aimé ce qu'a dit le professeur Pondy en parlant d'initiatives que les Africains également, de leur côté, doivent prendre. Pas simplement être là à attendre que les Américains prennent des initiatives vis-à-vis de l'Afrique, mais aussi que l'Afrique prenne des initiatives vis-à-vis de l'Amérique. Ça peut se faire au niveau national, ça peut se faire au niveau régional, sous-régional, ça peut se faire au niveau continental, peu importe. Mais je crois qu'effectivement, The Young African Leaders Initiative du président Obama est une initiative particulièrement pertinente, d'autant plus qu'elle se focalise sur la jeunesse africaine. Mais vous savez, c'est pas la seule. Hein. Il y a plusieurs initiatives.
René, je vais devoir vous couper. Et si vous pouvez nous dire en un mot, votre mot de la fin, puisqu'on tire à la fin de cette émission.
Les initiatives du président Obama, il y en a plusieurs. Il y a le Feed the Future, un projet agricole et nutritionnel du président Obama. Il y a le maintien, bien entendu, du NCA. Il y a eu l'extension pour 10 ans de l'AGOA. Il y a eu le premier sommet avec les chefs d'État africains où il y a eu plus de 33 milliards de dollars américains de pledge par le secteur privé américain. Ça, c'était en août de l'année dernière.
Voilà.
Il y a l'initiative Trade Africa, il y a Power Africa pour l'électricité.
Merci.
Donc, il y a quand même un certain nombre d'initiatives importantes.
Merci, René. Professeur Pondy, un mot de la fin?
C'est juste pour dire que c'est bon de savoir que les Africains américains seront plus forts quand l'Afrique, le continent mère, sera aussi plus fort. Je crois que c'est très important, cela.
Merci beaucoup, professeur Jean-Emmanuel Pondy. Merci à René Lec, qui était nos invités dans l'Amérique et vous de ce vendredi. Nous sommes arrivés au terme de cette émission de l'Amérique et vous. Donc, John Lyndon était à la présentation avec...